Stance 3, verset 1. La dernière vibration de la septième éternité tressaille à travers l'infini. La mer se gonfle, elle croît de dedans en dehors, comme le bouton du lotus. Commentaire, petit a. L'emploi en apparence paradoxale du terme « septième éternité », terme qui divise ainsi l'indivisible, est sanctifié dans la philosophie ésotérique. Cette dernière divise la durée sans borne en temps inconditionné, éternel et universel, entre parenthèses Kala, et en temps conditionné, entre parenthèses Kandakala. L'un est l'abstraction ou le noumen du temps infini, l'autre son phénomène apparaissant périodiquement comme l'effet de Maha, l'intelligence universelle, limitée par la durée manvantarique. Dans quelques écoles, Maha est le premier né de Pradhana, la substance non différenciée ou aspect périodique de Mula Prakriti, la racine de la nature, laquelle, Pradhana, est appelée Maya, illusion. Sur ce point, je crois que l'enseignement ésotérique diffère de la doctrine védantine des écoles Advaita et Visishtadvaita. Car il dit que, tandis que Mula Prakriti, le noumen, est soit existant et sans origine, en un mot sans parent, Anupadaka, un avec Brahman, Prakriti, son phénomène est périodique et simplement le fantôme du premier. De même, Maha, le premier-né de Jnana ou Gnosis, la connaissance, la sagesse, le logos, est un fantôme réfléchi du Nirguna absolu, entre parenthèses Parabrahman, la réalité unique, sans attribut ni qualité. Tandis que selon quelques Védantins, Maha serait une manifestation de Prakriti ou matière. Commentaire petit b. Par conséquent, la dernière vibration de la septième éternité n'était prédestinée par aucun dieu, mais se présentait comme résultat d'une loi éternelle et immuable qui est la cause des grandes périodes d'activité et de repos, appelées si expressément et en même temps si poétiquement les jours et les nuits de Brahma. L'expansion de dedans en dehors, de la mer, appelée ailleurs les eaux de l'espace, la matrice universelle, etc., ne fait pas allusion à l'expansion d'un petit centre ou foyer, mais signifie le développement d'une subjectivité sans limite devenant objectivité sans plus de limite, et cela sans référence à une question de dimension, de borne ou d'étendue. La substance, pour nous, toujours invisible et immatérielle, qui est présente dans l'éternité, jeta son ombre périodique de son plan dans le sein de Maya. Cela implique que cette expansion n'étant pas une augmentation de dimension, car l'extension infinie n'admet pas d'augmentation, était un changement de condition. Elle s'épanouit comme le bouton du lotus, car la plante du lotus n'existe pas seulement en embryon miniature dans sa graine, entre parenthèses ce qui est sa caractéristique physique, mais son prototype est présent en une forme idéale dans la lumière astrale, depuis l'aurore jusqu'à la nuit, pendant la période manvantarique, comme tout du reste dans cet univers objectif, de l'homme à la mythe, de l'arbre géant au brin d'herbe le plus infime. Tout cela, nous dit la science cachée, n'est que la réflexion temporaire, l'ombre du prototype éternel idéal qui repose dans la pensée divine. Et notez que le mot « éternité » n'a ici que la signification « déon », c'est-à-dire ce qui dure à travers ce qui paraît interminable, bien que ce ne soit que le cycle d'activité que nous appelons Manvantara. Quelle est en effet la signification réelle et ésotérique du mot Manvantara, ou plutôt Manuantara? Il signifie littéralement « entre deux manus ». Il y a 14 manus dans chaque jour de Brahma, et chacun de ces derniers comprend 1000 fois les 4 âges, 1000 grands âges ou Mahayuga. Analysons maintenant le mot de manu. Les orientalistes, dans leur dictionnaire, nous disent que le terme manu vient de la racine man, pensée. C'est par conséquent l'homme pensant. Mais, ésotériquement, chaque manu, véritable anthropomorphisé du cycle spécial ou ronde auquel il préside, n'est que l'idée personnifiée de la pensée divine, entre parenthèses comme le pimandre hermétique, le dieu particulier, le créateur, le façonneur de tout ce qui apparaît pendant le cycle ou Manvantara qui lui est propre. Phoat est le serviteur des Manus, ou Dhyan Chohan, et cause que les prototypes idéaux s'épanouissent de dedans en dehors, c'est-à-dire traversent peu à peu, sur une échelle descendante, tous les plans, de celui des noumènes à celui des phénomènes, le plus bas, pour fleurir sur ce dernier en pleine objectivité, comme summum de l'illusion ou de la matière dans son état le plus grossier. Stance 3, verset 2. La vibration se propage soudain, touchant de son aile rapide tout l'univers et le germe qui réside dans les ténèbres qui soufflent sur les eaux sommeillantes de la vie. La monade pythagoricienne est dite aussi habitée dans la solitude et les ténèbres, comme le germe. L'idée du souffle des ténèbres se mouvant sur les eaux sommeillantes de la vie, qui sont la matière primordiale contenant l'esprit latent, rappelle le premier chapitre de la Genèse. Son origine est le Narayana brahmanique, entre parenthèses celui qui se meut sur les eaux. Personnification du souffle éternel du tout inconscient, ou Parabrahman, des occultistes orientaux. Les eaux de la vie, ou le chaos, en symbolisme le principe féminin, sont le vide pour notre vue mentale dans lequel se trouvent à l'état latent l'esprit et la matière. C'est ce qui fit dire à Démocrite, d'après son précepteur Leucippe, que les principes primordiaux de tout étaient des atomes et un vide, vide au sens d'espace, mais non d'espace vide, car la nature a horreur du vide, selon les péripatéticiens et tout philosophe de l'Antiquité. Dans toutes les cosmogonies, l'eau joue le même rôle important. Elle est la base et la source de l'existence matérielle. Les savants, prenant le mot pour la chose, ont compris par là qu'il s'agissait de la combinaison chimique définie de l'oxygène avec l'hydrogène et ont donné ainsi une signification spécifique à un terme dont les occultistes se servent dans un sens générique et auquel on donne en cosmogonie un sens mystique et métaphysique. La glace n'est pas l'eau, la vapeur non plus, les trois pourtant ont la même composition chimique. Stance 3, verset 3. Les ténèbres rayonnent la lumière, et la lumière laisse tomber un rayon solitaire dans les eaux, dans l'abîme mer. Le rayon traverse rapidement l'œuf vierge. Il fait frissonner l'œuf éternel, qui laisse tomber le germe non éternel, qui se condense en l'œuf du monde. Le rayon solitaire tombant dans l'abîme mère peut être pris comme signifiant la pensée divine ou l'intelligence imprégnant le chaos. C'est ce qui se passe sur le plan de l'abstraction métaphysique, ou plutôt sur le plan où ce que nous appelons une abstraction métaphysique est une réalité. L'œuf vierge étant, en un sens, l'ovarité abstraite, c'est-à-dire le pouvoir de se développer par la fécondation, est éternel et à jamais le même. Et comme la fécondation d'un nœud a lieu avant qu'il soit pondu, de même le germe non éternel, périodique, qui devient plus tard dans le symbolisme l'œuf du monde, contient en lui-même, lorsqu'il sort du dit symbole, la promesse et la puissance de tout l'univers. Quoique l'idée en soi ne soit naturellement qu'une abstraction, un mode d'expression symbolique, elle est un vrai symbole, car elle suggère l'infinité comme un cercle sans fin. Elle met devant les yeux du mental le tableau du cosmos émergeant de l'espace sans bornes, et en lui, univers également sans rivage dans son étendue, sinon aussi éternel dans sa manifestation objective. Le symbole de l'œuf exprime encore le fait enseigné dans l'occultisme que la forme primordiale de toute chose manifestée, de l'atome au globe, de l'homme à l'ange, est sphéroïdale, la sphère étant dans toutes les nations l'emblème de l'éternité et de l'infini, un serpent avalant sa queue. Toutefois, pour réaliser cette signification, il faut penser à la sphère telle qu'elle serait vue du centre. Le champ de la vision ou de la pensée est comme une sphère dont les rayons vont de soi dans toutes les directions et s'étendent dans l'espace, ouvrant tout autour d'eux des aperçus sans bornes. C'est le cercle symbolique de Pascal et des kabbalistes, dont le centre est partout et la circonférence nulle part, conception qui s'ajuste à l'idée complexe de cet emblème. L'œuf du monde est peut-être un des symboles le plus universellement adopté, et il est hautement suggestif, tant dans le sens spirituel que dans le sens physiologique et cosmologique. On le trouve par conséquent dans toute théogonie du monde, et il y est amplement associé au symbole du serpent, ce dernier étant partout, dans les philosophies comme dans le symbolisme religieux, l'emblème de l'éternité, de l'infini, de la régénération aussi bien que de la sagesse. Le mystère de la soi-génération apparente et de l'évolution par son propre pouvoir créateur, répétant en petit dans l'œuf le processus de l'évolution cosmique, processus dû tous les deux à la chaleur et à l'humidité vitalisée par le rayonnement de l'esprit créateur invisible, justifie pleinement le choix de ce symbole expressif. L'œuf vierge est le symbole microcosmique du prototype macrocosmique, la Vierge Mère, le chaos ou l'abîme primordial. Le créateur mâle, entre parenthèses sous n'importe quel nom, fait sortir de la Vierge féminine la racine immaculée, fructifiée par le rayon. Quel est l'individu versé dans les sciences astronomiques et naturelles qui ne verra pas combien cela est suggestif? Le cosmos, considéré comme la nature réceptive, est un œuf fructifié, et cependant laissé immaculé. Du moment qu'il est regardé comme sans borne, il ne peut être représenté autrement que par un sphéroïde. L'œuf d'or était entouré de 7 éléments naturels, l'éther, le feu, l'air, l'eau, 4 apparents et 3 secrets. On trouvera cela dans le Vishnu Purana, où les éléments sont traduits par le mot « enveloppe » et où l'on y ajoute un élément secret, « Ahamkara ». Le texte original ne porte pas d'Ahamkara. Il parle des 7 éléments sans spécifier les 3 derniers. Stance 3, verset 4. Les 3 tombent dans les 4. L'essence radieuse devient 7 en dedans et 7 en dehors. L'œuf lumineux, qui en lui-même est 3, se coagule et s'étend en caillots blancs comme du lait dans les profondeurs de la mer, la racine qui croît dans les profondeurs de l'océan de vie. Commentaire, petit a. Il faut expliquer l'emploi des figures géométriques et les fréquentes allusions à des chiffres qui se trouvent dans toutes les écritures antiques, dans les Puranas, dans le livre des morts des Égyptiens et même dans la Bible. Dans le livre de Dzian, comme dans la Kabbale, il y a 2 sortes de nombres à étudier. Les chiffres, souvent de simples leurres, et les nombres sacrés, dont la valeur est connue des occultistes au moyen de l'initiation. Les premiers ne sont que des glyphes de convention, les derniers sont les symboles fondamentaux de tout. C'est-à-dire les uns sont purement physiques, les autres purement métaphysiques, les deux étant dans la même relation réciproque que la matière et l'esprit, pôles extrêmes de la substance unique. Comme dit quelque part Balzac, l'occultiste inconscient de la littérature française, le nombre est au mental ce qu'il est à la matière, un agent incompréhensible. Il en est sans doute ainsi pour le profane, mais non pour l'initié. Le nombre, comme le pensait le grand écrivain, est une entité et en même temps un souffle émanant de ce qu'il appelait Dieu et de ce que nous appelons le tout. Le souffle qui seul pouvait organiser ce cosmos physique, où rien n'obtient sa forme que par la divinité, laquelle est un effet du nombre. Il est intéressant de citer à ce sujet les paroles de Balzac. Deux points, ouvrez les guillemets. Les moindres créations, comme les plus grandes, ne se distinguent-elles pas entre elles par leur quantité, leur qualité, leur dimension, leurs forces et leurs attributs, tous éléments procédant du nombre. L'infini des nombres est un fait prouvé par notre mental, mais dont la preuve ne peut pas être donnée physiquement. Le mathématicien nous dira que l'infini des nombres existe, mais que l'on ne peut pas le démontrer. Dieu est un nombre doué de mouvements qu'on sent, mais qu'on ne peut pas démontrer. Comme unité, il commence les nombres, mais il n'a rien de commun avec eux. L'existence du nombre dépend de l'unité qui, sans un seul nombre, les engendre tous. Et quoi ? Incapable de mesurer la première abstraction qu'offre la divinité, ou seulement de la comprendre, vous espérez quand même soumettre à vos mesures le mystère des sciences secrètes qui émanent de cette divinité ? Qu'éprouveriez-vous donc si je vous plongeais dans les abîmes du mouvement, la force qui organise les nombres ? Que penseriez-vous si j'ajoutais que le mouvement et le nombre sont engendrés par le Verbe, la raison suprême des voyants et des prophètes, qui dans les anciens temps sentirent le souffle puissant de Dieu, comme en témoigne l'Apocalypse. Fermez les guillemets. Commentaire petit b. L'essence radieuse se caille et s'étend à travers les profondeurs de l'espace. Au point de vue astronomique, cette figure est facile à expliquer. C'est la voie lactée, l'étoffe dont est fait le monde, la matière primordiale dans sa première forme. Il est toutefois plus difficile, au point de vue de la science occulte et du symbolisme, d'expliquer ce point en peu de mots, car c'est le plus compliqué des glyphes. C'est le réceptacle de plus d'une douzaine de symboles. Et d'abord, il contient tout le panthéon des objets mystérieux, dont chacun possède une signification occulte définie, tirée de l'allégorie hindoue du barattage de l'océan par les dieux. C'est ainsi qu'Amrita, l'eau de vie ou d'immortalité, et Surabhi, la vache d'abondance appelée la fontaine de lait et de caillé, procèdent de cette mère de lait. De là le culte universel de la vache et du taureau, spécifiant l'un le pouvoir producteur, l'autre le pouvoir générateur dans la nature, symbole relié aux divinités solaires et cosmiques. Les propriétés spécifiques, pour l'usage occulte, des 14 choses précieuses n'étant expliquées qu'à la 4e initiation, ne peuvent être données ici. Mais il convient de faire les remarques suivantes. On déclare dans le Shatapatha Brahmana que le barattage de l'océan de lait eut lieu pendant le Satya Yuga, le premier âge qui suivit immédiatement le déluge. Comme cependant ni le Rig Veda ni Manu, tous les deux antérieurs au déluge de Vaivasvata, celui qui anéantit la plus grande partie de la 4e race, ne parlent de ce déluge, il est évident que celui dont on parle ici n'est ni un grand déluge, ni celui qui emporta Atlantis, ni même celui de Noé. Ce barattage se rapporte à une période antérieure à la formation de la Terre et s'applique directement à une autre légende universelle dont les versions diverses et contradictoires trouvèrent leur expression maximum dans le dogme chrétien de la guerre dans le ciel et de la chute des anges. Les Brahmanas, que les orientalistes accusent d'être des versions sur le même sujet, ne s'accordant pas ensemble, sont au plus haut degré des ouvrages occultes, et par conséquent servant de voile. On ne leur a permis de rester à l'usage et en la propriété du public que parce qu'ils étaient et sont absolument incompréhensibles aux masses. Sinon, on les aurait supprimés depuis longtemps, dès le temps d'Akbar. Stance 3, verset 5. La racine demeure, la lumière aussi, les cailloux également. Et cependant, O-E-A-O-H-U est un. Commentaire petit. Dans les commentaires, on traduit O-E-A-O-H-U par le Père-Mère des dieux, ou le 6 en 1, ou la racine septénaire dont tout procède. Tout dépend de l'accent qu'on donne à ces sept voyelles. On peut les prononcer comme une, trois ou même sept syllabes, en ajoutant un E après le O final. Ce nom mystique n'est d'ailleurs divulgué que parce que, sans une maîtrise parfaite de sa triple prononciation, il reste à jamais sans effet. Commentaire petit b. Et un se rapporte à la non-séparativité de tout ce qui vit et existe, à l'état actif ou passif. Dans un sens, O-E-A-O-H-U est la racine sans racine de tout, et par conséquent, un avec Parabrahman. Dans un autre sens, c'est un nom de la vie une manifestée, l'unité éternelle et vivante. Racine signifie, comme on l'a déjà expliqué, la connaissance pure, entre parenthèses sattva,
la réalité éternelle non conditionnée,
entre parenthèses nitya, ou sat, entre parenthèses satya, qu'on appelle Parabrahman ou Mula Prakriti, car ces derniers ne sont que les deux symboles de l'un. La lumière est le même rayon spirituel omniprésent qui est entré dans l'œuf divin, l'a maintenant fécondé, et invite la matière cosmique à commencer sa longue série de différenciations. Les cailloux sont la première différenciation et se rapportent probablement à cette matière cosmique que l'on suppose être à l'origine de la Voie lactée, la matière que nous connaissons. Cette matière, qui selon la révélation reçue des premiers Dhyani Bouddha, est, pendant le sommeil périodique de l'univers, de la ténuité la plus grande que puisse concevoir l'œil du Bodhisattva parfait, cette matière radieuse et froide se trouve au premier éveil du mouvement cosmique, éparpillée à travers l'espace, apparaissant, vue de la Terre, en mottes et en masses semblables aux grumeaux de l'écaillé. Ce sont les semences des mondes futurs, l'étoffe stellaire. Stance 3, verset 6. La racine de la vie était en chaque goutte de l'océan de l'immortalité, et l'océan était la lumière radieuse qui était feu, chaleur et mouvement. Les ténèbres disparurent et ne furent plus. Elles disparurent dans leur propre essence, le corps de feu et d'eau du Père et de la Mère. Commentaire. L'essence des ténèbres étant la lumière absolue, les ténèbres sont prises pour la représentation allégorique appropriée à la condition de l'univers pendant le pralaya, lequel paraît à notre mental borné comme une période de repos absolu ou de non-être. Le feu, la chaleur et le mouvement dont il est question ici ne sont pas bien entendu le feu, la chaleur et le mouvement de la science physique, mais leurs abstractions sous-jacentes, les noumènes, l'âme de l'essence de ces manifestations matérielles, les choses en elles, qui d'après l'aveu de la science moderne échappent entièrement aux instruments de laboratoire, et que le mental même ne peut sentir, quoiqu'il ne puisse guère éviter de conclure à l'existence de ces essences comme substratum des choses. On peut expliquer le feu et l'eau, le père et la mère, comme signifiant ici le rayon divin et le chaos. Par cette union avec l'esprit, le chaos obtenant la raison rayonna de plaisir et ainsi fut produit le protogonos, la lumière première-née, dit un fragment d'Hermès. Damasius l'appelle Dis, D-I-S, en théogonie, le disposeur de toutes choses. Selon les données des Rose-Croix, dont l'interprétation par les profanes est assez correcte, sinon complète, la lumière et les ténèbres sont identiques entre elles, car elles ne sont séparables que dans le mental humain. Et selon Robert Flood, les ténèbres s'emparèrent de l'illumination pour se rendre visibles. D'après l'enseignement de l'occultisme oriental, les ténèbres sont la seule vraie réalité, la base et la racine de la lumière, sans laquelle cette dernière ne pourrait jamais se manifester ni même exister. La lumière est matière et les ténèbres pur esprit. Les ténèbres dans leur base radicale et métaphysique sont la lumière subjective et absolue, tandis que cette dernière, lorsqu'elle est dans tout son éclat et sa gloire apparente, n'est qu'une masse d'ombre, parce qu'elle ne peut jamais être éternelle et n'est simplement qu'illusion ou maya. Même dans la Genèse, si déroutante et fatigante pour la science, la lumière est issue des ténèbres, et les ténèbres sont la face de l'abîme, et non vice-versa. En lui, dans les ténèbres, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le jour viendra peut-être où les yeux des hommes seront ouverts. Ils comprendront alors mieux que maintenant le verset de l'évangile de Jean qui dit « Et la lumière brilla dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise ». Ils verront alors que le mot « ténèbres » ne s'applique pas à la vision spirituelle de l'homme, mais véritablement aux ténèbres, à l'absolu, qui ne comprend pas, ne peut pas connaître la lumière passagère, quelque transcendante qu'elle puisse paraître aux yeux humains. Démon est Deus inversus. L'Église donne maintenant au diable le nom de ténèbres, quoique dans la Bible, le livre de Job, il soit appelé le Fils de Dieu, l'étoile brillante du matin, Lucifer. Il existe toute une philosophie dogmatique dans la raison qui fit que le premier archange qui monta des profondeurs du chaos fut appelé Lux, entre parenthèses Lucifer, le fils lumineux du matin de l'aurore mandvantarique. L'Église l'a transformé en Lucifer ou Satan, parce qu'il est plus élevé et plus ancien que Jéhovah, et qu'il dut être sacrifié au nouveau dogme. Stance 3, verset 7. Vois, ô Lanou, l'enfant radieux des deux, la gloire resplendissante sans pareille, l'espace brillant, fils de l'espace obscur, qui émerge des profondeurs des grandes eaux sombres. C'est O-E-A-O-H-U, le plus jeune. Il resplendit comme le soleil, il est le dragon de sagesse flamboyant et divin. L'éka et chatur s'approprient tri et l'union produit le sapta, en qui sont les sept qui deviennent le tridasha, les armées et les multitudes. Voile relevant le voile et le déployant de l'Orient à l'Occident. Il cache ce qui est en dessus et laisse voir le dessous comme la grande illusion. Il désigne leur place aux êtres lumineux, change le dessus en une mer de feu sans rivage, et l'un manifesté en les grandes eaux. Commentaire. Petit A. L'espace brillant, fils de l'espace obscur, correspond au rayon tombé, à la première vibration de la nouvelle aurore dans les grands abîmes cosmiques, d'où il ressort différencié comme O-E-A-O-H-U, le plus jeune, la nouvelle vie, pour devenir jusqu'à la fin du cycle de vie le germe de toute chose. C'est l'homme incorporel qui contient en lui l'idée divine, le générateur de la lumière et de la vie, pour nous servir d'une expression de Philon le Juif. On le nomme le dragon de sagesse resplendissant, parce que d'abord il est ce que les philosophes grecs nommaient le logos, le verbe de la pensée divine, et deuxièmement parce que dans la philosophie ésotérique, cette première manifestation étant la synthèse ou la somme de la sagesse universelle, O-E-A-O-H-U, le fils du soleil, contient les sept armées créatrices, les séphirotes, il est ainsi l'essence de la sagesse manifestée, entre guillemets, celui qui se baigne dans la lumière O-E-A-O-H-U ne sera jamais trompé par le voile de Maya. Fermez les guillemets. Quan Chai Yin est identique à l'Avalokiteshvara sanskrit, et comme tel est une divinité androgyne, comme le tétragrammaton et tous les logoïdes de l'Antiquité. Il n'est anthropomorphisé que par quelques sectes en Chine et est représenté alors avec des attributs féminins. Note. Aucun symbole religieux ne peut échapper à la profanation ou même à la dérision dans nos jours de politique et de science. Dans l'Inde du Sud, l'auteur a vu un indigène converti faisant le puja avec des offrandes devant une statue de Jésus vêtue en femme et avec un anneau dans le nez. À la demande sur le sens de cette mascarade, on nous répondit que c'était Jésus-Marie en un seul, et que c'était fait avec la permission des missionnaires, parce que le zélé converti n'avait pas les moyens d'acheter deux statues ou idoles, comme les appela un témoin hindou aussi, mais non converti. Si blasphématoire que cela puisse sembler à un chrétien dogmatique, le théosophe et l'occultiste doivent donner la palme de la logique à l'hindou converti. Le Christos ésotérique est naturellement sans sexe, mais dans la théologie exotérique, il est masculin et féminin. Fin de la note. Sous son aspect femelle, il devient Kuan Yin, la déesse de miséricorde, appelée aussi la voix divine. Note. La Sophia gnostique, la sagesse qui est la mère de Logdoad, dans un certain sens Aditi avec ses 8 fils, est le Saint-Esprit et le Créateur de tout, comme dans les systèmes anciens. Le Père est une invention bien plus présente. Le premier logo manifesté était partout féminin, la mère des 7 pouvoirs planétaires. Fin de la note. Cette dernière, en parlant de Kuan Yin, est la divinité protectrice du Tibet et de l'île de Puto en Chine, où les 2 divinités ont main couvent. Les dieux les plus élevés de l'Antiquité sont toujours les fils de la mère avant de devenir les fils du père. Les logoi, comme Jupiter ou Zeus, fils de Cronos Saturne, le temps infini, entre parenthèses Kala, était originairement représenté comme mâle femelle. Zeus est nommé la belle vierge et Vénus est représentée barbue. Apollon était d'abord bisexuel comme l'est aussi Brahmavak dans Manu et les Puranas. On peut changer Osiris et Isis l'un pour l'autre et Horus est des 2 sexes. Enfin, dans la vision de Saint Jean dans l'Apocalypse, le Logos, qu'on associe maintenant avec Jésus, est hermaphrodite, car on le décrit comme ayant des seins de femme. Il en est de même pour le tétragrammaton, égale Jéhovah. Mais en ésotérisme, il y a 2 Avalokiteshvara, le premier et le second Logos. Commentaire petit b. Le dragon de sagesse est l'un, l'Eka ou Saka. Il est intéressant de remarquer que le nom de Jéhovah en hébreu est aussi un, Achad. Son nom est Achad, disent les rabbins. Les philologues devraient décider lequel des 2 termes est dérivé de l'autre au point de vue linguistique et symbolique. Ce n'est certes pas le sanskrit. L'un et le dragon sont des expressions dont les anciens se servaient en parlant de leurs logoi respectifs. Jéhovah, en tant qu'Elohim, ésotériquement parlant, est aussi le serpent ou dragon qui tente à Ève. Et le dragon est un ancien glyphe pour la lumière astrale, entre parenthèses principe primordial, qui est la sagesse du chaos. La philosophie archaïque, ne reconnaissant ni le bien ni le mal comme pouvoir fondamental ou indépendant, mais prenant pour point de départ le tout absolu, la perfection éternellement universelle, nous montre que ces 2 forces, comme les aspects de la pure lumière qui se condensent graduellement en forme et de là devient matière ou mal. Ce fut le fait des ignorants pères des débuts de l'Église de dégrader l'idée philosophique et hautement scientifique de cet emblème pour en faire l'absurde superstition appelée le diable. Ils l'empruntèrent aux derniers zoroastriens qui voyaient dans les dévas hindous des diables ou le mal, et le mot « evil » est devenu par une double transmutation « devil »,« diabolos »,« diable »,« diavolo »,« teufel ». Mais les païens ont toujours montré un discernement philosophique dans leurs symboles. C'est ainsi que le symbole primitif du serpent désignait la sagesse et la perfection divine, et a toujours représenté la régénération et l'immortalité psychique. C'est pourquoi Hermès appelait le serpent le plus spirituel de tous les êtres. Moïse, initié dans la sagesse d'Hermès, dit la même chose dans la Genèse. Le serpent gnostique, avec les 7 voyelles sur sa tête, était l'emblème des 7 hiérarchies de créateurs septénaires ou planétaires. De là aussi, l'idée du serpent hindou, Shesha ou Ananta, l'infini, un nom de Vishnu, dont il est le premier Vahan, ou véhicule sur les eaux primordiales. Comme les logoi et les hiérarchies de pouvoir, ces serpents doivent pourtant être distingués l'un de l'autre. Shesha ou Ananta, la couche de Vishnu, est une abstraction allégorique symbolisant le temps infini dans l'espace qui contient le germe et en projette périodiquement l'efflorescence, l'univers manifesté, tandis que l'office, O-P-H-I-S, gnostique, contient le même symbolisme triple dans ses 7 voyelles que O-E-A-O-H-U de la doctrine archaïque, et avec ses 1, 3 et 7 syllabes, c'est-à-dire le premier logos non manifesté, le second ou manifesté, le triangle qui se concrétise dans le quaternaire ou tétragrammaton, et les rayons de ce dernier sur le plan matériel. Les anciens firent cependant toujours une différence entre le bon et le mauvais serpent, entre parenthèses la lumière astrale des kabbalistes, entre le premier, incorporation de la sagesse divine dans la région du spirituel, et le second, le mal, sur le plan de la matière. Car la lumière astrale ou éther des anciens païens, le nom de lumière astrale est tout moderne, est esprit-matière, qui procédant du plan purement spirituel devient plus grossier en descendant jusqu'à constituer la Maya ou le serpent tentateur et trompeur sur notre plan. Jésus accepta le serpent comme synonyme de sagesse, et cela forma une partie de son enseignement. « Soyez aussi sages que les serpents, dit-il. » Au commencement, avant que la mer devint père-mère, le dragon ardent se mouvait seul dans l'infini. L'Atharaya Brahmana appelle la terre Sarparajni, la reine serpent, et la mère de tout ce qui se meut. Avant que notre globe devint ovoïde, et l'univers aussi, une longue traînée de poussière cosmique, ou brouillard de feu, s'agitait et se tordait comme un serpent dans l'espace. L'esprit de Dieu se mouvant sur le chaos a été symbolisé, dans chaque nation, sous la forme d'un serpent ardent soufflant la flamme et la lumière sur les eaux primordiales, jusqu'à ce qu'il eût incubé la matière cosmique et lui eût fait prendre la forme annulaire d'un serpent se mordant la queue, ce qui symbolise non seulement l'éternité et l'infini, mais aussi la forme globuleuse de tous les corps formés dans l'univers par ce brouillard ardent. L'univers, la terre et l'homme rejettent périodiquement, comme fait le serpent, leur vieille peau, pour en prendre de nouvelles après un temps de repos. Le serpent n'est certes pas une image moins gracieuse ou moins poétique que la chenille ou la chrysalide d'où sort le papillon, emblème grec de Psyché, l'âme humaine. Le dragon fut aussi le symbole du logos chez les Égyptiens comme chez les gnostiques. Dans le livre d'Hermès, Pimandre, le plus ancien et le plus spirituel des logoi du continent occidental, apparaît à Hermès sous la forme d'un dragon ardent de lumière, de feu et de flamme. Pimandre, personnification de la pensée divine, dit « La lumière c'est moi, je suis Nous, le mental ou Manu, je suis ton Dieu et je suis bien plus ancien que le principe humain qui s'échappe de l'ombre, entre parenthèses les ténèbres ou la divinité cachée, je suis le germe de la pensée, le Verbe resplendissant, le Fils de Dieu. » Tout ce qui voit et entend en toi, c'est le Verbe du Maître, c'est la pensée, entre parenthèses Maha, qui est Dieu, le Père. L'océan céleste, l'éther et le souffle du Père, le principe qui donne la vie, la mer, le Saint-Esprit, car ceux-ci ne sont pas séparés et leur union est la vie. Fin de citation. Nous trouvons ici l'écho évident de l'archaïque doctrine secrète que nous exposons en ce moment. Seulement cette dernière ne place pas à la tête de l'évolution de la vie le Père, qui prend sa troisième place et qui est le Fils de la Mère, mais elle y place le souffle éternel et incessant du tout. Maha, la compréhension, le mental universel, la pensée, etc., avant de se manifester comme Brahma ou Shiva, apparaît comme Vishnu, dit la Samkhya-sara. Il a donc plusieurs aspects, comme le Logos. Maha est appelé le Seigneur dans la création primaire, et il est dans ce sens la cognition universelle ou pensée divine. Mais ce Maha qui fut produit le premier est, plus tard appelé égoïsme, lorsqu'il est né comme la sensation elle-même. Moi, c'est là ce que l'on nomme la création seconde. Et le traducteur, brahman instruit et intelligent, non un orientaliste européen, explique en note que lorsque Maha se développe en la sensation de soi-conscience, le « je », il prend le nom d'égoïsme, qui traduit dans notre langage ésotérique veut dire « lorsque Ma est changé en Manas humain, ou même en celui des dieux finis, et revêt l'état d'Aham », on expliquera plus loin pourquoi il est appelé le Ma de la création secondaire, ou la neuvième, celle de Kumara, dans le Vishnu Purana. Commentaire petit c. La mère de feu est donc la lumière supra-astrale, c'est-à-dire nouménale, la première radiation de la racine, Mula Prakriti, la substance cosmique non différenciée, qui devient la matière astrale. Elle est appelée aussi le serpent de feu, comme on l'a déjà dit. Si l'étudiant veut bien se rappeler qu'il n'y a qu'un élément universel qui est infini, non né, ne mourant pas, et que tout le reste, comme dans le monde des phénomènes, n'est que des aspects variés, multiples, différenciés et transformés, ce que l'on appelle maintenant des corrélations de cet un, depuis les produits du macrocosme jusqu'à ceux du microcosme, depuis les êtres surhumains jusqu'aux êtres humains et subhumains, en un mot la totalité de l'existence objective, alors la première et la plus grande difficulté disparaîtra et la cosmologie occulte pourra être comprise. Note. Ainsi, dans les théogonies égyptiennes et indiennes, il y avait une divinité cachée, l'un, et un dieu créateur androgyne, Chou, le dieu de la création, et Osiris, qui dans sa forme primaire originelle est le dieu dont le nom est inconnu. Fin de la note. Tous les kabbalistes et occultistes orientaux et occidentaux reconnaissent, petit a, l'identité du père-mère avec l'éther primordial ou Aquasha, entre parenthèses la lumière astrale, et petit b, son homogénéité avant l'évolution du fils, le Foat cosmique, car ce dernier était l'électricité cosmique. Foat durcit et éparpille les sept frères, ce qui veut dire que l'entité électrique primordiale, car les occultistes orientaux affirment que l'électricité est une entité, donne la vie par la force électrique et sépare la substance primordiale ou la matière pré-génétique en atomes qui sont eux-mêmes la source de toute vie et de toute conscience. Il existe un agent unique, universel, de toutes les formes et de la vie. Il s'appelle Od, Ob et Or, est actif et passif, positif et négatif, comme le jour et la nuit. C'est la première lueur dans la création. Entre parenthèses, Eliphas Lévi, la première lumière de l'Élohim primordial, l'Adam mâle et femelle, ou scientifiquement l'électricité et la vie. Note. Od est la lumière pure qui donne la vie, le fluide magnétique. Ob est le messager de la mort dont les sorciers se servent, le fluide néfaste. Et Or, A-U-R, est la synthèse des deux, la vraie lumière astrale. Les philologues peuvent-ils nous dire pourquoi Od, un terme dont Reichenbach s'est servi pour désigner le fluide vital, est aussi un mot tibétain qui signifie lumière, éclat, brillance. Dans un sens occulte, il signifie aussi le ciel. D'où vient la racine du mot? D'autre part, Aquasha n'est pas exactement l'éther, mais quelque chose de bien plus élevé, comme on le démontrera. Fin de la note. Les anciens le représentaient par un serpent, car Foat siffle en se glissant ça et là en zigzag. La Kabbale le désigne par la lettre hébraïque Tet, T-E-T-H, dont le symbole est le serpent qui joue un rôle si important dans les mystères. Sa valeur universelle est 9, car c'est la 9e lettre de l'alphabet et la 9e des 50 portes qui mènent au mystère caché de l'être. C'est l'agent magique par excellence et spécifique dans la philosophie hermétique, la vie infusée dans la matière primordiale, l'essence qui compose toute chose et l'esprit qui détermine leur forme. Mais il y a deux opérations hermétiques secrètes, l'une spirituelle, l'autre matérielle corrélative et à jamais unie. Comme le dit Hermès, ouvrez les guillemets, « Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais, ce qui monte de la terre au ciel et redescend du ciel sur la terre. Cela, la lumière subtile, est la force de toute force, car cela conquiert toute chose subtile et pénètre tout solide. Ainsi fut formé le monde. » Fermez les guillemets. Zénon, le fondateur des stoïciens, ne fut pas seul à enseigner que l'univers évolue et que sa substance primaire est changée de l'état de feu en celui d'air, puis en celui d'eau, etc. Héraclite d'Éphèse maintint que l'unique principe sous-jacent à tout phénomène dans la nature est le feu. L'intelligence qui met l'univers en mouvement est le feu, et le feu est de l'intelligence. Et tandis qu'Anaximène dit la même chose de l'air et Thalès de Milet, de l'eau, la doctrine ésotérique réconcilie tous ces philosophes en démontrant que quoique chacun séparément ait raison, aucun de leurs systèmes n'est complet. Stance 3, verset 8. Où était le germe? Où étaient alors les ténèbres? Où est l'esprit de la flamme qui brûle dans ta lampe, ô Lanou? Le germe est cela, et cela est la lumière, le blanc et brillant fils du Père obscur et caché. Commentaire. La réponse à la première question suggérée par la seconde, qui est la réponse de l'instructeur à l'élève, contient dans une seule phrase une des vérités les plus essentielles de la philosophie occulte. Il indique l'existence de choses imperceptibles à nos sens physiques, choses qui sont bien plus importantes, bien plus réelles et bien plus permanentes que celles qui font appel à ces sens. Avant que le Lanou puisse espérer comprendre le problème de métaphysique transcendantale contenu dans la première question, il doit être capable de répondre à la seconde, et la réponse qu'il donnera à la seconde lui fournira l'indice pour trouver la réponse exacte de la première. Dans le commentaire sanskrit de cette stance, les termes employés pour le principe caché et non révélé sont nombreux. Dans les premiers manuscrits de la littérature indienne, cette divinité abstraite et non révélée n'a pas de nom. On l'indique ordinairement par « cela », en sanskrit « tat », mot qui signifie tout ce qui est, fut, sera, ou ce qui peut être ainsi conçu par le mental humain. Parmi ces appellations qui ne sont naturellement données que par la philosophie ésotérique, expressions telles que « ténèbres »,« insondables »,« tourbillons », etc., se trouve aussi celle de « cela » du Kalahamsa. Kalahamsa et même Kalihamsa, entre parenthèses, signe noir. Ici, « m » et « n » sont interchangeables et tous deux ont le son nasal des syllabes françaises « an » ou « am ». Il arrive dans le sanskrit, comme dans la Bible en hébreu, que bien des noms mystérieux et sacrés ne disent pas plus à l'oreille profane qu'un mot quelconque, vulgaire même, parce que ces mots sont cachés par anagramme en autre mot. Le mot « amsa » ou « amsa » en est un exemple. « Amsa » est semblable à « ahamsa », trois mots qui signifient « je suis lui », tandis que, divisé d'une autre façon, on peut y lire « soham »,« lui est moi ».« Soham » équivalent « ça », »,« lui » et « aham », »,« je » ou « je suis lui ». Dans ce seul mot est contenu pour celui qui comprend le langage de la sagesse, le mystère universel, la doctrine de l'identité de l'essence de l'homme avec l'essence de Dieu. De là le glyphe et l'allégorie de Kalahamsa ou Hamsa, et le nom donné à Brahman neutre, et plus tard au Brahmamol de Hamsavahana, celui qui se sert de Hamsa comme véhicule. On peut lire aussi le même mot Kalahamsa ou « je suis moi » dans l'éternité du temps, ce qui correspond à la phrase biblique ou plutôt zoroastrienne « je suis ce que je suis ». La même doctrine se trouve dans la Kabbale, comme en témoigne la citation suivante d'un manuscrit non publié de M.S. Liddell MacGregor Mather, l'érudit kabbaliste. Citation. On se sert des trois pronoms, ua, ate, ani, il, tu, je, pour symboliser les idées de macroposope et de microposope dans la Kabbale hébraïque. Ua, ou il, s'applique au macroposope caché. Ate, ou tu, au microposope, et ani, je, à ce dernier, lorsqu'on le représente comme parlant. Il est à noter que chacun de ces noms comprend trois lettres. Aleph, A, forme la fin du premier mot, ua, et le commencement de Atay et de Ani, comme si c'était le lien entre eux. Mais Aleph est le symbole de l'unité, et par conséquent de l'idée invariable du divin opérant à travers ses lettres. Derrière Aleph, dans UA, sont les lettres Vo et E, symboles des nombres 6 et 5, le mâle et la femelle, l'hexagramme et le pentagramme. Et les nombres de ces trois mots, UA, Atay, Ani, sont 12, 406 et 61, nombres résumés dans les nombres clés 3, 10 et 7 par la cabale des neuf chambres, qui est une forme de la règle exégétique de Temura. Fin de citation. Il est inutile d'essayer d'expliquer entièrement ce mystère. Les matérialistes et les hommes de la science moderne ne le comprendront jamais, puisque pour en obtenir une perception claire, on doit d'abord admettre le postulat d'une divinité éternelle, omniprésente et universellement répandue dans la nature. Ensuite, avoir sondé le mystère de l'électricité dans sa véritable essence. Et en troisième lieu, admettre que l'homme est un symbole septénaire, sur le plan terrestre, de la seule grande unité, le logos, qui est lui-même le signe aux sept voyelles, le souffle cristallisé dans le verbe. Note. C'est encore semblable à la doctrine de Fichte et des panthéistes allemands. Le premier vénère Jésus comme le grand instructeur qui insista sur l'unité de l'esprit de l'homme avec l'esprit Dieu ou principe universel, entre parenthèses doctrine Advaita. Il est difficile de trouver une seule spéculation dans la métaphysique de l'Occident qui n'ait pas été anticipée par la philosophie orientale archaïque. Depuis Kant jusqu'à Herbert Spencer, c'est presque toujours plus ou moins un écho déformé des doctrines Dvaita, Advaita et Vedantine. Fin de la note. Celui qui croit à tout cela doit aussi croire à la combinaison multiple des sept planètes de l'occultisme et de la Kabbale avec les 12 signes du zodiaque, et attribuer, comme nous le faisons, à chaque planète et à chaque constellation une influence qui, ainsi que le dit Élie Star, un occultiste français, lui est propre, bonne ou mauvaise, et cela selon l'esprit planétaire qui la gouverne, lequel à son tour est capable d'influencer les hommes et les choses qui se trouvent en harmonie avec lui et avec qui il a des affinités. Pour ces raisons, et puisque peu de personnes croient en ce qui précède, tout ce qu'on peut dire maintenant, c'est que dans les deux cas, le symbole de Hansa, que ce dernier soit « je », « lui », « wa » ou « signe », est un symbole important, représentant par exemple la sagesse divine, la sagesse dans les ténèbres au-delà de la portée des hommes. Pour tous les usages exotériques, Hansa, comme le sait chaque hindou, est un oiseau fabuleux qui, entre parenthèses dans l'allégorie, lorsqu'on lui offrait du lait mêlé à de l'eau, séparait les deux, buvait le lait et laissait l'eau, montrant ainsi une sagesse particulière, le lait représentant symboliquement l'esprit et l'eau la matière. Que cette allégorie soit très ancienne et date d'une des premières périodes archaïques se voit à la façon dont on parle dans le Bhagavata Purana d'une certaine caste nommée Hamsa ou Hansa et qui était la seule caste par excellence lorsque bien loin en arrière, dans les brumes d'un passé oublié, il n'y avait chez les hindous qu'un Veda, une divinité et une caste. Il y a aussi une partie de l'Himalaya nommée Hamsa, décrite dans les vieux livres comme étant située au nord du mont Meru et reliée à certains épisodes appartenant à l'histoire des initiations et des mystères religieux. Quant à ce que Kalahamsa soit, comme le disent les textes exotériques et les traductions des orientalistes, le véhicule de Brahma Prajapati, c'est une erreur. Brahman, le neutre, est appelé par eux Kalahamsa et Brahma, le mâle, Hansavahana, parce que sans doute son véhicule est un cygne ou une oie. C'est purement une glose exotérique. Ésotériquement et logiquement, si Brahman, l'infini, est tout ce que les orientalistes dépeignent, et en accord aussi avec les textes védantins, c'est-à-dire une divinité abstraite, nullement caractérisée par des attributs humains, si l'on soutient en même temps qu'il est appelé Kalahamsa, comment peut-il devenir le Vahan de Brahma, Dieu fini et manifesté? C'est juste le contraire. Le signe ou loi, entre parenthèses Hansa, est le symbole de la divinité mâle ou temporaire, Brahma, l'émanation du rayon primordial, et sert de vahan ou véhicule pour ce rayon divin, qui sans cela ne pourrait pas se manifester dans l'univers, puisque par antiphrase il est lui-même une émanation des ténèbres, du moins pour notre intelligence humaine. C'est Brahma. Alors, qui est Kalahansa? Et le rayon est Hansa Vahana. Quant à l'étrange symbole ainsi choisi, il est aussi très suggestif. Sa véritable signification mystique, c'est l'idée d'une matrice universelle, figurée par les eaux primordiales de l'abîme ou l'ouverture pour la réception, et plus tard pour la sortie de ce rayon unique, entre parenthèses le logos, qui contient en lui les sept autres rayons ou pouvoirs procréateurs, entre parenthèses les logoi ou constructeurs. C'est de là que vient le choix comme symbole par les Rose-Croix de l'oiseau aquatique, que ce soit le cygne ou le pélican, avec ses sept petits comme symbole modifié et adapté aux religions de tout pays. Note. Que l'espèce de l'oiseau soit cygnus, anser ou pélicanus, cela ne fait rien du moment que c'est un oiseau aquatique nageant ou flottant sur les eaux, comme l'esprit, et sortant ensuite de ces eaux pour donner naissance à d'autres êtres. La vraie signification du symbole du 18e degré des Rose-Croix, c'est précisément cela, bien que plus tard on l'ait poétiquement transformé en le sentiment maternel du pélican déchirant son flanc pour nourrir de son sang ses sept petits. Fin de la note. Le livre des nombres donne le nom d'Ain Sof à l'âme ardente du pélican. Note. La raison pour laquelle Moïse défend qu'on mange le pélican et le cygne et classe ces deux oiseaux parmi les animaux impurs, tandis qu'il permet de manger le scarabée et les sauterelles de toute espèce, est purement physiologique et ne se rapporte à la symbologie mystique qu'en ce que le mot « impur », comme tout autre mot, ne doit pas être pris dans son sens littéral, car il est ésotérique comme tout le reste et peut signifier aussi bien sacré que le contraire. C'est un voile particulièrement suggestif dans le cas de certaines superstitions, chez les Russes, par exemple, qui ne mangent pas le pigeon, non parce qu'il est impur, mais parce qu'on dit que le Saint-Esprit est apparu sous la forme d'une colombe. Fin de la note. Apparaissant avec Shak Manvantara comme Narayana ou Svayambhuva, le soi existant, et pénétrant dans l'œuf du monde, il en sort à la fin de l'incubation divine comme Brahma ou Prajapati, le progéniteur de l'univers futur dans lequel il s'épand. Il est Purusha, entre parenthèses esprit, mais il est aussi Prakriti, entre parenthèses matière. Donc ce n'est qu'après s'être séparé en deux moitiés, Brahma Vark, la femelle, et Brahma Viraj, le mâle, que le Prajapati devient le Brahma mâle. Stance 3, verset 9. La lumière est la flamme froide, et la flamme est le feu, et le feu produit la chaleur qui donne l'eau de la vie dans la grande mer. Il faut se rappeler que les mots « lumière »,« flamme » et « feu » ont été adoptés par les traducteurs du vocabulaire des vieux philosophes du feu, afin de rendre plus clairement la signification des termes et symboles archaïques employés dans l'original. Sinon, ils auraient été entièrement incompréhensibles aux lecteurs européens. Pour un étudiant de l'occulte, cependant, ces termes sont suffisamment clairs. Note. Pas les alchimistes du Moyen-Âge, mais les mages et adorateurs du feu, à qui Rose-Croix ou philosophe, Père Ignem, successeur des théurgistes, empruntèrent toutes leurs idées au sujet du feu comme élément mystique et divin. Fin de note. La lumière, la flamme, le froid, le feu, la chaleur, l'eau et l'eau de vie sont tous sur notre plan les rejetons ou, comme dirait un physicien moderne, les corrélations de l'électricité. Mots puissants et symboles encore plus puissants. Générateur sacré d'une progéniture non moins sacrée. Du feu, créateur, conservateur, destructeur. De la lumière, essence de nos ancêtres divins. De la flamme, âme des choses. L'électricité, c'est-à-dire la vie unie, sur l'échelon le plus élevé de l'être, et le fluide astral, l'athanor des alchimistes sur le plus bas, Dieu et le diable, le bien et le mal. Pourquoi maintenant appelle-t-on dans les stances la lumière la flamme froide? Parce que dans l'ordre de l'évolution cosmique, entre parenthèses comme l'enseignent les occultistes, l'énergie qui actionne la matière, après sa primitive formation en atomes, est générée sur notre plan par la chaleur cosmique. et parce que, avant cette période, le cosmos, pris au sens de matière dissociée, n'était pas. La première matière primordiale, éternelle, coexistante à l'espace, entre guillemets, qui n'a ni commencement ni fin, n'est ni chaude ni froide, mais possède une nature propre spéciale, fermez les guillemets, dit le commentaire. La chaleur et le froid sont des qualités relatives et appartiennent au domaine des mondes manifestés, qui procèdent tous de l'illé manifesté. Ce dernier, dans son aspect absolument latent, est désigné sous le titre de vierge froide, et lorsqu'il est réveillé à la vie, reçoit le titre de mère. Les anciens mythes des cosmogonies occidentales disent qu'au commencement il n'y avait que le brouillard froid, entre parenthèses le père, et la boue prolifique, entre parenthèses la mère, Illus ou Illé, d'où sortit le serpent du monde, entre parenthèses la matière. La matière primordiale, donc, avant qu'elle sorte du plan de ce qui ne se manifeste jamais, et qu'elle se réveille à l'action vibratoire sous l'impulsion de Foat, n'est qu'un rayonnement froid, sans couleur, sans goût, dépourvu de qualité et d'aspect. Et ses premiers-nés sont de même, les quatre fils qui sont un et deviennent sept, les entités dont les qualifications et les noms servirent aux anciens occultistes orientaux pour nommer quatre des sept centres de force primaires, ou atomes qui se développent plus tard en les grands éléments cosmiques, actuellement répartis dans les 70 et quelques sous-éléments connus de la science moderne. Les quatre natures primaires des premiers Dian Shuan sont appelées, entre parenthèses faute de meilleur nom, aquatiques, éthérées, aqueuses et ignées, expressions correspondant dans la terminologie de l'occultisme pratique à des définitions scientifiques de gaz qui, pour être compris à la fois des occultistes et du public ordinaire, doivent être nommées para-hydrogéniques. Para-oxygénique, oxy-hydrogénique et ozonique, peut-être nitrozonique, qui sont en occultisme suprasensibles quoique atomiques, qui possèdent leur maximum d'activité lorsqu'elles œuvrent sur le plan d'une matière plus grossièrement différenciée. Ces éléments sont à la fois électropositifs et électronégatifs. Entre parenthèses, chacun d'eux, et bien d'autres encore, sont probablement les liens manquants de la chimie. Dans l'alchimie et chez les occultistes pratiques, ils sont connus sous d'autres noms. C'est en combinant et recombinant ou dissociant les éléments à l'aide du feu astral qu'on produit les plus grands phénomènes. Stance 3, verset 10. Le père-mère tisse une toile dont l'extrémité supérieure est attachée à l'esprit, Purusha, la lumière des ténèbres, et l'extrémité inférieure à son ombre, la matière. Prakriti. Cette toile est l'univers, tissée avec les deux substances combinées en une, qui est Svabhavat. Commentaire. Dans la Mandukya Upanishad, il est écrit « Comme une araignée étend et retire sa toile, comme les plantes surgissent de terre, de même l'univers est dérivé de celui qui n'a pas de déclin, Brahma, car le germe des ténèbres inconnues est la matière dont tout évolue et se développe, comme la toile vient de l'araignée et l'écume de l'eau, etc. Ce n'est expressif et vrai que si le terme Brahma, le créateur, est dérivé de la racine bri, augmenter ou s'étendre. Brahma s'étend et devient l'univers, tissé de sa propre substance. La même idée a été bien exprimée par Goethe lorsqu'il dit « Ainsi je travaille au rouet du temps, et je tisse pour Dieu le vêtement sous lequel tu le vois. » Stance 3, verset 11. Cette toile s'étend lorsque le souffle de feu, c'est-à-dire le Père, la couvre. Elle se contracte lorsque le souffle de la mère, c'est-à-dire la racine de la matière, la touche. Alors, les fils, c'est-à-dire les éléments avec leur pouvoir ou intelligence respectifs, se séparent et se dispersent, pour rentrer dans le sein de leur mère à la fin du grand jour et redevenir un avec elle. Lorsque la toile se refroidit, elle devient rayonnante. Ses fils se gonflent et se contractent dans leur propre soi et par leur cœur. Ils embrassent l'infini. Commentaire. L'expansion de l'univers sous le souffle du feu est très suggestive si on la considère à la lumière de la période du brouillard de feu, dont la science moderne parle tant et dont en réalité elle sait si peu. Une grande chaleur sépare les éléments composés et résout les corps célestes en leur élément primordial unique. Voilà ce qu'explique le commentaire. Ouvrez les guillemets. Du moment qu'un corps, mort ou vivant, s'est décomposé en ses constituants de base, en se mettant dans la zone d'attraction et d'action d'un foyer ou centre de chaleur énergie, et plusieurs de ces centres sont promenés çà et là dans l'espace, ce corps est réduit en vapeur et gardé dans le sein de la mer jusqu'à ce que Foat, recueillant quelques-unes des parcelles de la matière cosmique, entre parenthèses nébuleuse, lui donne une impulsion, le mette de nouveau en mouvement, développe la chaleur nécessaire et le laisse suivre sa nouvelle croissance. Fermez les guillemets. L'expansion et la contraction de la toile, c'est-à-dire l'étoffe ou atome dont est fait le monde, exprime ici le mouvement de pulsation, car c'est la contraction et l'expansion régulière de l'océan infini et sans rivage de ce que nous pouvons appeler le noumen de la matière, émané par Svabhavat, qui est la cause de la vibration universelle des atomes. Mais cela suggère autre chose aussi. Cela montre que les anciens savaient ce qui intrigue de nos jours beaucoup de savants, et surtout beaucoup d'astronomes, la cause de la première ignition de la matière, ou étoffe dont est composé le monde, le paradoxe de la chaleur produite par la contraction réfrigérante et autres énigmes cosmiques, car cela démontre à ne pas s'y méprendre que les anciens avaient la connaissance de ces phénomènes. Ouvrez les guillemets. Il y a dans chaque atome la chaleur interne et la chaleur externe, fermez les guillemets, disent les commentaires manuscrits dont l'auteur a eu communication. Le souffle du Père, entre parenthèses esprit, et le souffle, entre parenthèses chaleur de la mère, matière. Et ces documents donnent des explications qui montrent que la théorie moderne de l'extinction des feux solaires, conséquence de la perte de chaleur due à la radiation, est erronée. Les savants eux-mêmes conviennent de la fausseté de l'assertion car, ainsi que le fait remarquer le professeur Newcomb, en perdant sa chaleur, un corps gazeux se contracte et la chaleur générée par la contraction dépasse celle qu'il a eu à perdre pour produire la contraction. Ce paradoxe qu'un corps devient plus chaud à mesure que la contraction produite par le refroidissement devient plus grande a été la cause de bien des discussions. On a prétendu en effet que l'excès de chaleur se perd par radiation et que déclarer que cette température ne s'abaisse pas pari passu avec la diminution de volume sous une pression constante, c'est abolir la loi de Charles. Il est vrai que la contraction développe de la chaleur, mais la contraction causée par le refroidissement n'est capable ni de développer la quantité de chaleur existant à un moment donné dans la masse, ni même de maintenir un corps à une température constante. Le professeur Winchell essaie d'expliquer le paradoxe, paradoxe qui n'est qu'apparent comme le démontre Homer Lahn, en suggérant qu'il existe quelque chose en dehors de la chaleur. Ne serait-ce pas, dit-il, tout simplement une répulsion entre les molécules qui varierait selon une loi des distances? Mais l'accord ne pourra se faire que si ce quelque chose qui existe en dehors de la chaleur est appelé la chaleur sans cause, le souffle de feu, la force omnicréatrice plus l'intelligence absolue, ce qui est peu probable que la science physique accepte. Quoi qu'il en soit, la lecture de cette stance montre que, malgré sa phraséologie archaïque, elle est plus scientifique que la science moderne elle-même. Stance 3, verset 12. Alors Svabhavat envoie Foat pour durcir les atomes. Chacun des atomes étant partie de la toile, réfléchissant le Seigneur existant par lui-même, comme un miroir, chacun devient à son tour un monde. Commentaire. Foat durcit les atomes, c'est-à-dire en leur infusant de l'énergie, il disperse les atomes ou matière primordiale. Il se disperse lorsqu'il disperse la matière en atomes. Entre parenthèses, commentaire manuscrit. C'est par le moyen de Foat que les idées du mental universel sont imprimées sur la matière. On peut avoir une faible idée de la nature, Foat en l'appelant l'électricité cosmique, comme on le fait quelquefois. Mais il faut alors ajouter d'autres attributs à ceux qui sont ordinairement reconnus à l'électricité, y compris l'intelligence. Il est intéressant de noter que la science moderne vient enfin de reconnaître que toute activité cérébrale est accompagnée de phénomènes électriques. Fin de la stance 3.